Bonsoir et bienvenue au podcast / balado Histoire de s'en jaser. Ce soir, ce matin, cette nuit, cet après-midi, ce midi, peu importe quand vous écoutez le balado, nous recevons Rose Tremblay-Fontaine et moi-même, Maïté, Frédéric, ou Fred, ou Frédéric Lefèvre.
Lefèvre, mais je pense que Fred, ça suffit.
Fred pour les intimes. Et pour une seconde fois, parce qu'on a enregistré un premier balado sur l'enquête Caron et le comité Kefauver et la violence, une première fois. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'écouter, sinon vous allez être bien perdu. Un peu comme moi, finalement, qui enregistre les podcasts. Mais on va parler un peu des concepts qu'on avait déjà abordés à la fin du premier épisode. Donc, Fred... D'accord, merci. Est-ce que tu pourrais nous parler du concept de la moralité? On commence fort, là. Concept de la moralité qui impacte la représentation de la violence au sein de l'enquête Caron et du comité Kefauver.
Oui, bien j'en ai déjà... je l'ai déjà effleuré vite dans l'épisode précédent, excusez-moi. Mais la moralité a un très gros impact sur la représentation, mot très difficile à dire, de la violence dans ces deux enquêtes. Puis on le voit de la façon que l'enquête Caron traite de certaines activités illégales dans son jugement final et la façon que la commission Kefauver, elle, traite de ces mêmes activités où, justement, elle omet, ou peut-être que c'est une bonne chose aussi, mais elle traite différemment. Elle donne un poids différent à ces activités-là. Donc, ça impacte la violence parce que la violence étatique, comme j'avais mentionné, n'est pas vue comme une violence, en fait. Elle est vue comme une solution au problème de l'immoralité. Et vu que la commission Kefauver alloue moins de place à la moralité, elle alloue plus de place à la violence physique parce que son objectif est différent, c'est de faire peur à la population, de dire que le crime organisé, c'est dangereux, et non de dire que certaines activités sont immorales.
Donc, on change un peu de registre, maintenant qu'on a parlé du lien entre la moralité et la représentation de la violence dans les deux rapports. Mais justement, comme si on revient peut-être un peu plus dans l'idée de la violence, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport inégal de pouvoir inhérent au concept de violence? Donc, pour que la violence existe, il doit absolument y avoir un rapport entre dominant ou dominé. On en a un petit peu parlé dans le premier épisode, mais pour qu'on se remette tranquillement dans le bain, là, on va reparler de certains concepts et peut-être aller un peu plus en profondeur.
Oui. Donc, oui, je pense en effet qu'il y a un rapport inégal de pouvoir inhérent au concept de violence. En effet, là, je vais citer Jean-Marie Fecteau qui a fait beaucoup de recherches sur la violence. Mais ça a quand même été... La phrase que je vais citer, ça a été quand même centrale à mon travail parce que je trouvais que ça décrivait bien la situation de violence étatique autant que de violence physique, psychologique. Donc lui, il dit que la violence naît de l'impuissance et carbure à la domination. Donc moi, je trouvais que c'était vraiment important dans mon travail de représenter justement ce concept de rapport inégaux de pouvoir dans la violence. Et on le voit dans la violence étatique aussi. Par exemple, dans les situations que j'ai décrites plus tôt, l'État reste l'acteur dominant dans toutes les situations. Parce que c'est l'État, finalement, qui détermine du sort des citoyens. Dans les situations de violence étatique, par exemple, je vais les répéter, les arrestations, les emprisonnements, les descentes policières, les amendes, c'est toujours l'État qui a le rôle dominant et c'est le citoyen qui a le rôle dominé. Ceci étant dit, il y a certaines activités illégales où ce rapport-là est plus important. Par exemple, si je peux développer un peu plus sur ça, le travail du sexe, les travailleuses du sexe sont beaucoup plus dans un rôle dominé que, par exemple, les tenanciers de maisons de jeu et de paris, parce que les travailleuses du sexe sont touchées par plusieurs couches de domination de la part de l'État. Donc, bien évidemment, sont dominées par l'État parce que l'État et les citoyens, il y a naturellement une relation dominant-dominée. Sont aussi dominées par l'État en termes de moralité parce que la prostitution est considérée comme une activité intrinsèquement immorale. Ça, je vais pouvoir développer un petit peu plus après. Et les policiers, qui sont les agents de l'État, se chargent de rétablir la moralité et de nettoyer l'immoralité. Et elle est aussi dominée par l'État en termes de violence, parce que c'est l'État qui utilise, c'est lui qui peut se permettre d'utiliser certaines actions de violence pour réprimer leur comportement. Je pense aussi que c'est nécessaire de souligner que dans les deux enquêtes, le travail du sexe, parce que là, je veux préciser pourquoi je parle seulement de travailleuses du sexe, c'est parce que dans les deux enquêtes, le travail du sexe est considéré comme étant exclusivement féminin. Sans aucune nécessité de justifier ou d'élaborer sur cette question-là, tout simplement, par exemple, l'enquête Caron rajoute écrit « prostituée » avec un « e » à la fin de chaque mot, ce qui fait que on comprend qu'il parle de femmes. Et dans les deux enquêtes, parce que bien évidemment en anglais, il n'y a pas de différence de langage nécessairement féminin ou masculin, mais dans les deux enquêtes aussi, les travailleuses du sexe sont considérées comme... ils sont infantilisés. Donc dans l'enquête Caron, on parle de filles et non de femmes. Et donc, par exemple, on va dire qu'il y avait beaucoup de filles qui ont été arrêtées à cette maison de prostitution. Et dans l'enquête Key Favor, on parle de « girls ». Alors que lorsqu'on parle de la femme d'un policier, on va dire « woman ».
Puis c'est comme au 19e siècle, on disait des filles publiques aussi, mais il y a ce même sentiment-là. Puis j'ai l'impression que ça relève aussi un peu de l'idée de la moralité, parce qu'on s'imagine pas qu'une femme peut recourir au service d'un homme se prostituant, d'un prostitué. Ouais. Je sais même pas...
Je pense que c'est ça,
un prostitué. On dit toujours une prostituée, en tout cas. Mais... j'ai l'impression que ça relève aussi de l'idée de la moralité puis de comment la moralité s'applique aux hommes et aux femmes différemment. Puis dans ce contexte-là, ben ça, c'est qu'au final, on essaie aussi de viser peut-être plus les femmes qui viennent affecter la moralité des hommes.
Exactement, parce que si je continue dans cette même ligne-là, les femmes, y étaient aussi... illégal pour les femmes et pour les hommes de se retrouver dans une maison de prostitution. C'était contre la loi de se trouver dans une maison de prostitution sans excuses valables, comme on disait
Mais c'est quoi les excuses valables pour être dans une maison de prostitution?
C'est une très bonne question. J'imagine que si t'es un policier qui fait une descente, ça doit être une excuse valable. On va dire que...
Mais j'imagine que si tu es un ami de policier, c'est une raison valable aussi.
Ben, c'est exactement ça. Donc, c'était aussi légal pour les hommes que pour les femmes. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup plus de femmes qui étaient arrêtées pour se trouver dans une maison de prostitution que d'hommes. L'enquête Caron dit, dans son jugement, dit que il y avait très peu d'hommes qui étaient sur place. C'était très rare qu'il y avait des hommes sur place, ce qui explique... les rares arrestations d'hommes. Par contre, Daniel Lacoste, que j'ai mentionné dans l'épisode précédent, qui a fait sa thèse sur la prostitution féminine à Montréal, dit que c'est pas vrai qu'il y avait moins d'hommes sur place, c'est simplement qu'il faisait... qu'il profitait d'un traitement de faveur, puis qu'il pouvait s'en sortir. C'était également le cas pour les tests de dépistage d'ITSS. Donc, les femmes qui étaient arrêtées dans des maisons de prostitution devaient se soumettre à ces tests-là, alors que les hommes s'en sortaient très souvent. Et on s'entend que c'est pas un test très agréable.
Puis on s'entend aussi que si t'as des femmes prostituées, la seule cliente... Ben, pas la seule, mais comme à ce moment-là,
ouais,
la majeure partie de la clientèle, c'est des hommes.
Ben oui.
Puis on sera pas ouvert s'il y a juste deux monsieur qui payent pas au bar, là. Je suis désolée. Mais comme, logiquement, s'il y a... cinq filles, cinq femmes, il y a cinq gars aussi.
Exactement. Puis il y a une raison pourquoi ces maisons restaient ouvertes aussi. Et il y avait différents statuts de maisons aussi. Il y avait les maisons closes, les maisons ouvertes, et les maisons semi-closes, si je ne me trompe pas. Et les maisons ouvertes, c'était c'était celle qui était le plus ouverte à la population générale. Ça coûtait très peu cher et c'était ouvert à pas mal tout le monde. Les maisons semi-closes, c'était entre les deux. Et les maisons closes, c'était seulement sur recommandation que tu pouvais entrer dans la maison. Et aussi, il explique souvent que le plus les femmes étaient habillées à l'intérieur de la maison de prostitution, le plus c'était une maison de prostitution de qualité. Donc, si tu rentrais et les femmes étaient vêtues, ça veut dire que tu étais dans une maison assez de qualité. Mais si je continue sur la même lancée de pouvoirs inégaux, donc là, on a parlé de celui de l'État par rapport aux travailleuses du sexe, mais plus que ça, il y a aussi le rapport de pouvoir entre les policiers, oui, qui sont des agents de l'État, mais entre les policiers et les travailleuses du sexe, parce que les policiers ont également un double pouvoir sur les travailleuses du sexe, parce qu'ils peuvent s'appuyer sur leur pouvoir qui leur est assigné par l'État, en ayant choisi cette profession-là, et sur le pouvoir qu'ils détiennent dès la naissance, on peut dire ça comme ça, en tant qu'homme, sur la femme. Donc, les policiers, ils ont le pouvoir de réprimer ces femmes-là parce que c'est leur emploi, mais il y a aussi, à l'extérieur de leur emploi, ça reste qu'ils ont un certain pouvoir sur les travailleuses du sexe. Puis ça qui est intéressant de souligner aussi, excusez-moi, j'ai frappé la table, mais pendant la guerre, les femmes commencent de plus en plus à occuper l'espace public. Et les hommes, à la suite de la guerre, tentent de regagner cet espace-là, qui ont perdu ou qui sont en train de perdre aux mains des femmes. Donc, ils tentent de la reprendre en contrôlant le travail du sexe et en délimitant un red light district très précis. Donc, c'est ça qu'on... Il y a certaines études qui disent que, oui, les policiers répriment le travail du sexe, mais ils le tolèrent aussi. Mais en même temps, dans leur tolérance, c'est simplement une technique ou une méthode pour contrôler ce que les femmes font, dans quel espace, où. Donc, ils gardent quand même un contrôle sur les travailleuses du sexe, même s'ils le tolèrent. Ils continuent à pouvoir diviser... En fait, ils gèrent la division de l'espace public. Parce qu'ils disent, OK, dans ce quartier-là, vous avez le droit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous laissez le reste, les autres quartiers, à nous.
Ouais, c'était comme une façon d'assurer une forme de dominance sur les travailleuses du sexe qui, veut pas, ben, pouvaient obtenir une certaine indépendance par rapport à la gente masculine, notamment en raison de leur emploi salarié. Si on peut appeler ça un emploi salarié, ben, je sais pas si on peut dire que c'est salarié, mais je sais pas si on peut dire que c'est un emploi, mm-hmm. mais en tout cas, je sais pas la terminologie exacte, mais... Bref, ça leur assurait une certaine forme d'indépendance. Puis j'ai l'impression que dans les années 50, ben, on en a parlé un peu dans le premier épisode aussi, pour ceux qui l'ont écouté. Ça va peut-être sonner des cloches, mais on a parlé justement beaucoup pour les États-Unis, mais du traditionnalisme. Puis le fait qu'on veut protéger les valeurs américaines, parce que là, on pense que l'ennemi est ailleurs. Mais j'imagine qu'on le vit aussi un peu ici, au retour de la guerre, qui c'est on veut protéger des valeurs du 19e siècle, mais qui perdure au 20e siècle, justement. Vas-y, Maïté.
J'allais enlever le micro à Rose parce que j'étais trop enthousiaste à ce que je voulais partager. Parce que dans un séminaire, il y a de cela quelques sessions déjà, j'ai étudié la sexualité chez les femmes dans cette époque-là. Les femmes mariées, surtout, parce que je me suis basée sur des enquêtes ethnologiques, en fait, ces femmes. Puis on parlait de moyens de contraception. Puis il y a plusieurs femmes mariées qui voyaient, par exemple, le condom comme un outil de contraception qui était utilisé que par les prostituées. Fait que dans les campagnes de moralité publique, tu salissais, puis là je mets des guillemets, là, ta femme si tu utilisais un condom, parce que c'était trop associé à la prostitution, c'était trop associé justement à toute cette immoralité-là, qu'il y a certaines personnes qui disaient « Non, moi, j'utilise pas ça avec ma femme, je la, entre guillemets, salis. » Fait que je voulais juste partager ça parce que je trouve que ça fait quand même une représentation de comment cette immoralité publique-là ou ces campagnes de moralité-là vont vraiment intégrer plusieurs couches. Excusez, c'est parce que je voyais Rose se prendre un morceau de chocolat et ça m'a complètement perturbée. Mais je voulais juste qu'on, voyons, partager ma foi à ça. Un peu pompeux, mais bon. C'est vraiment super intéressant ce que tu me dis, Fred. Je pense que Rose et moi, on avait presque oublié de poser des questions, puis on faisait qu'écouter ta douce voix. Mais on pourrait parler peut-être des activités illégales. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la prostitution dans cet épisode, mais aussi finalement du mythe un peu, là, du crime organisé. Mais est-ce qu'il y a vraiment comme des activités illégales précises? Genre, admettons, cracher dans la rue. Je sais que ça, c'est comme un exemple un peu d'homme. Mais est-ce qu'il y avait vraiment comme, admettons, une liste avec des points, là, comme faut réprimer ça?
Mais en fait, plus ou moins. Dans les enquêtes, ce qui est vraiment abordé, dans l'enquête Caron, en fait, ça se divise en deux champs d'analyse, si on veut dire. Le premier, c'est la prostitution. Donc, la cour passe la moitié du jugement à discuter de la prostitution. Et la deuxième section, c'est sur les jeux de hasard et de paris. Donc, c'est vraiment, c'est divisé en deux. On n'aborde pratiquement pas d'autres activités illégales. C'est vraiment, c'est centré sur ça parce qu'il ne faut pas oublier que ça vise le vice commercialisé. Donc, ça vise des activités qui sont commercialisées, qui prennent de l'espace, qui prennent beaucoup d'espace dans la vie sociale, si on veut dire, qui sont un problème réel en lien avec la tolérance policière. Et pour la commission Kefauver, on parle très, très peu de la prostitution. Si je me souviens bien, on l'aborde, je pense, à deux fois, particulièrement brièvement. Mais on passe pratiquement tout notre temps à parler des jeux de hasard et de paris. Là, ils vont un peu plus en détail sur quel type de paris, quel type de jeux de hasard, certaines compagnies ou personnes haut placées qui facilitent les jeux de les paris par téléphone, par exemple. Ça, c'était un gros problème parce que tu n'avais pas le droit de parier par téléphone. Mais là, il y a des compagnies de téléphone, est-ce qu'ils permettent ça?
À qui la faute, dans le fond?
Exactement,
à qui la faute. Non, mais ça devait être long, parier par téléphone à l'époque.
Mais en même temps, si tu es loin et tu veux parier, c'est la meilleure. C'est moins long qu'y aller à pied.
Bon point.
Merci.
Bon point.
Mais moi, ma question, avant qu'on passe à un autre sujet, j'avais juste une question rapidement sur l'enquête Caron, parce qu'on en a aussi parlé, puis c'est comme une question que j'avais depuis le dernier épisode. Pour les auditeurs, ça fait juste comme une heure et demie pour nous, là. Ça fait pas deux semaines que je me pose cette question-là incessamment. Mais tu parles de l'enquête Caron, puis du fait que ça vise justement le... Ben, les institutions un peu plus du vice, là. Donc, les maisons closes, les maisons ouvertes, les bordels, ces trucs-là. Mais on a parlé aussi dans le dernier épisode des prostituées comme... des femmes qui vont se prostituer sporadiquement pour comme arrondir des fins de mois ou des choses comme ça, qui vont aller dans la rue, lever leur jupe, puis bon, c'est fait. Mais ma question, c'est...
Mais c'est tellement rough! Comment t'as dit ça?
Mais je voulais pas aller dans le rough, en fait. Là,
non,
mais,
non, c'était correct.
Mais je vais juste dire, mais c'est ça un peu la prostitution de rue à ce moment-là. Là, je veux dire, c'est un peu ça au 19e siècle aussi. Là, c'est ça qui se passe. Puis malheureusement, il y a de l'oppression, mais comme si t'es dans la rue, c'est pas facile. Donc... Pour ces femmes-là qui sont dans la rue, qui vont se prostituer sporadiquement pour arrondir les fins de mois, pour payer leur logement, des choses comme ça, elles sont vraiment à la vue et donc dérangeantes parce qu'elles sont là. Mais c'est pas institutionnel. Elles font pas partie d'une... Tu sais, elles sont pas employées par un bordel. Donc à ce moment-là, est-ce que les policiers attaquent... s'attaquent à la question de ces femmes-là dans la rue, ou ça passe un peu sous le radar?
Je peux pas parler pour tout, mais pour l'enquête Caron, ça passe sous le radar. Donc, ils disent assez explicitement que ce qu'ils visent, c'est pas justement cette prostitution sporadique. Ils vont même jusqu'à dire que les maisons de prostitution qui sont seulement établies pour quelques jours, quelques semaines, ils s'en occupent pas non plus. Donc eux, c'est vraiment, ils s'attaquent vraiment à ce qui est de longue durée, ce qui perdure. Comme il y a beaucoup de, c'est souvent ça aussi, il y avait certaines tenancières, comme, si je me trompe pas, Madame Beauchamp, qui était une des grandes tenancières de Montréal.
Madame Beauchamp a 6 pieds 6.
Exactement, une très grande tenancière de Montréal. Il y avait aussi Ida Katz, qui était également une de ses grandes tenancières. C'était les deux, si je me trompe pas, les deux plus grandes, se promenaient, se gênaient pas de montrer qu'elle faisait un bon revenu. Promenant avec des perles, des belles voitures, des manteaux de fourrure. Mais c'est pour ça que la police s'attaquait plus à ça, selon moi. C'est parce que c'est une industrie qui fonctionnait réellement. C'est une industrie qui faisait de l'argent, qui était établie et qui peut même être vue en quelque sorte. C'est ça qu'il y avait quand même un important débat à Montréal. J'imagine qu'il l'a probablement eu aux États-Unis aussi, mais c'est parce que c'était le débat entre la tolérance, parce que tolérer, c'était bon pour la ville. Tolérer, c'était bon pour l'économie de la ville, ça amenait beaucoup de tourisme. Donc, la ville avait un bénéfice à tolérer, et le monde politique et la police étaient très étroitement liés. Donc, quand la ville choisissait quelque chose, les policiers, ils suivaient un peu ce que la ville leur disait de faire, en quelque sorte. Donc, la ville la tolérait. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis un des meilleurs exemples de cette question, justement, et tantôt quand je disais que ça reste, que c'est l'État qui a le pouvoir dans cette relation, même s'il tolère, ça reste, c'est un excellent exemple parce que il y a eu, en 1935, il y a eu 8000 personnes qui ont été appréhendées pour des jeux de paris, jeux de hasard à Montréal, parce que la ville avait besoin d'argent. Donc la ville arrêtait peut-être pas tout le monde, mais arrêtait vraiment beaucoup de joueurs pour leur donner des amendes puis faire de l'argent. Seulement 5 ans auparavant, la ville a donné 501 amendes pour des jeux de hasard. Donc on s'entend que c'est une augmentation de 16 fois en l'espace de 5 ans. Et c'est arrivé exactement quand la ville a eu des problèmes d'argent. C'est ça que Magali Brodeur argumente dans son livre. Et c'est ça la réalité, c'est que la ville, ça reste elle qui choisit quand elle tolère, quand elle arrête de tolérer. Justement, en 1944, l'armée, il y a un général, si je ne me trompe pas, de l'armée canadienne, qui a dit à la ville de Montréal que s'il ne fermait pas toutes les maisons closes et ouvertes et semi-closes, il n'allait plus envoyer de soldats à Montréal. Et si je me souviens pas, c'est 2-3 jours plus tard, le Red Light District s'est éteint. Il n'y avait plus aucune maison de prostitution qui était ouverte. Donc ça, c'est la preuve que la ville a quand même un très grand rôle à jouer dans la tolérance policière. Et la ville va faire ce qui est avantageux pour elle. Ça aurait été plus dommageable pour la ville de plus avoir que l'armée les boycotte, en quelque sorte, que de continuer à tolérer. Donc, c'est vraiment une décision économique, à la fin, de choisir, OK, mais là, en ce moment, c'est plus avantageux pour nous de tolérer le vice commercialisé, puis à d'autres moments, ben ça l'est plus. Donc, on fait ce qui nous convient un peu, puis les policiers, ils vont nous suivre là-dedans. Donc, c'est vraiment... mais c'est pour ça que la ville de Montréal a été reconnue coupable et a dû payer aussi à la fin, parce qu'elle avait quand même une très grande part de responsabilité dans la tolérance de ces activités-là.
J'ai une question surprise qui va peut-être être boboche à suivre.
Il n'y a pas de questions niaiseuses.
Oh, merci. Mais ma question étant, d'après toi, tu sais, on a parlé un peu qu'il y avait une présence plus présente de mentions de travailleuses du sexe dans l'enquête Caron, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu penses que ça peut être associé au fait que dans les années 50, le gouvernement provincial était quand même très, 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 très catholique? Mais on était dans le gouvernement Duplessis.
Oui.
Donc, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être justement un peu l'influence de la croyance catholique qui, ma foi, ne met pas la femme sur un... les femmes sur un piédestal par rapport à, exemple, le comité Keith Over, qui était quand même très conservateur, mais peut-être pas catholique.
Il est comme protestant. Les...
Ouais. Ouais.
Mais c'est sûr que la religion catholique a un impact sur la vision de la moralité publique. Ceci étant dit, c'est impressionnant de voir à quel point Pacific Plant a quand même fait... Pax Plant a quand même fait fi de tout, de ce côté religieux-là, peut-être à un certain point, parce qu'il s'est... Moi, j'ai trouvé cette histoire assez rigolote. Il s'est attaqué au bingo d'église, parce que, ben, on joue au bingo dans les églises, et le bingo, c'est une sorte de jeu de hasard, ce qui est illégal. Et donc, il a fait plusieurs annonces pour dire que c'était illégal, qu'il fallait que les églises cessent de faire des soirées bingo. Et il y a un prêtre, je ne me souviens plus de quelle église, qui a refusé. Tout simplement, il a dit « moi, je ne vais pas arrêter de faire des bingos d'église ». Et il a fait une descente à cet endroit-là. Il a fait une descente policière avec plusieurs policiers dans les bingos d'église.
Dans l'église.
Dans l'église.
Ah ouais, ma tante Ginette, genre, donne-moi ton... Mais feuille de bingo?
Mais c'était plus le prêtre qui a été dans le trouble. Mais c'était une étude que j'ai lue sur ça. Ça ne mentionne pas s'il a été arrêté. Donc, ça, c'est un autre argument aussi. Pourquoi est-ce qu'on arrête Harry Shipp, par exemple, qui est un tenancier de Maison de Dieu, mais on n'arrête pas le prêtre qui, selon lui, fait la même chose? C'est quand même des jeux de hasard illégaux.
Au final, Pax Plant, il a perdu big time en jouant à un jeu de hasard, puis là, il était vraiment... Il était fru, là. Il était comme... Si je peux pas gagner, personne va gagner.
C'est peut-être ça. Faudrait chercher un petit peu plus loin.
Ouais.
Il y a peut-être quelque chose,
ouais.
Là.
En tout cas. puis je me demandais aussi... est-ce qu'il y a certaines activités criminelles qui sont pas considérées comme immorales? Donc, il y en a qui sont finalement... correctes.
Oui. En fait, dans les deux enquêtes, le jeu de hasard et le pari sont considérés comme si c'est pas immoral. Et ça fait que, au lieu de simplement, par exemple pour la prostitution, ils assument finalement que tout le monde sait que c'est immoral, alors que pour le jeu de pari, ils sentent un peu la nécessité de justifier pourquoi ça se retrouve dans une enquête sur la moralité publique. Et l'enquête Caron est assez explicite par rapport à la question de si c'est moral ou si c'est immoral. Et là, je vais citer une partie de l'enquête Caron. Donc, il dit « Il n'y a aucun doute que moralement, le jeu et le pari ne sont pas des offenses comparables à la prostitution. Toutefois, malgré qu'un grand nombre de personnes... peut-être bien pensante, partage l'opinion qu'il n'y a pas de mal, ou du moins pas grand mal dans le jeu et le pari, ces offenses n'en sont pas moins prohibées par le code criminel. Désolée pour la petite erreur ici. Mais c'est ça, donc, il dit tout simplement que c'est pas immoral, mais que c'est quand même illégal, donc ils n'ont pas vraiment le choix de l'enquêter, puis ils n'ont pas vraiment le choix... de dénoncer la tolérance policière qui tolère le jeu et le pari. Donc, leur façon de justifier le fait que le jeu de hasard et le pari soient enquêtés, ils vont parler de la violence qui l'entoure. Donc, ils vont dire « Ah, ben ça mène parfois à des meurtres et à la violence parce que certains veulent éliminer leur concurrence. Ça peut aussi mener à la ruine de certaines familles parce que des pères de famille vont parier, vont perdre tout leur argent. » Donc, ils justifient vraiment, ils sentent vraiment la nécessité de justifier pourquoi c'est immoral. Et en fait, la commission Keith Over fait pratiquement la même chose et parle même du désir humain de parier. Donc, eux, ils considèrent que c'est, en fait, que la pègre exploite ce désir humain de parier. Et que c'est pour cette raison que c'est une activité illégale ou immorale. C'est, en fait, c'est le fait que la pègre, elle exploite ce désir-là et non le jeu tel quel. Et ils disent aussi que il y a des choses bien pires, il y a des activités bien pires que les jeux de hasard et de paris. Ce qui fait que, ben, on comprend assez rapidement quelles activités sont considérées immorales, puis quelles activités le sont pas du tout. Puis ça fait que, ben, la prostitution, dans les deux cas, est considérée comme intrinsèquement immorale parce qu'ils ont, il y en a aucune des deux enquêtes sans le besoin de justifier pourquoi c'est immoral, alors que pour le jeu de paris, ils sentent le besoin.
Fallait se justifier. Exactement. Eh bien, ça me fait penser à, voyons, les années 50, c'était tellement une société patriarcale et paternaliste. Mais bon, hein?
C'est en effet le cas.
Malheureusement. Puis on a parlé beaucoup, finalement, des policiers dans les rapports, mais est-ce que, des fois, mettons, le rôle des policiers était vraiment vu comme bénéfique par rapport, exemple, dans le comité Kefauver? Je sais que l'enquête Caron va vraiment comme analyser certains policiers, mais est-ce que, même s'il analysait certains policiers, le rôle du policier était perçu comme bénéfique, quelque chose de nécessaire?
Ben oui, c'est assez contradictoire parce que d'un côté, on dénonce vraiment beaucoup la tolérance policière. Dans les deux enquêtes, on dénonce le fait que la police tolère des activités qui sont illégales ou immorales. Le comité Kefauver parle même de « political gambler police tie-up ». Donc lui, le comité met tout ensemble. Le monde politique, le crime organisé... Et la police, c'est un gros... dans le fond, c'est un système qui fonctionne ensemble. Donc, oui, les policiers sont vus de façon négative, parce qu'on dénonce beaucoup leur manque d'efficacité, entre autres, mais sont aussi vus comme étant nécessaires, comme tu l'as mentionné. C'est que on veut... La seule façon de remédier, dans le fond, à la tolérance policière, en quelque sorte, c'est d'être plus sévère, mais c'est un peu contradictoire. Mais... Ils veulent que les policiers fassent... C'est quand même décrit assez explicitement dans les deux rapports que la seule façon, selon ces rapports-là, d'avoir une société nettoyée, d'avoir une société morale, c'est que la police travaille plus efficacement et plus sévèrement. Dans le fond, qu'elle soit plus punitive et qu'elle arrête de tolérer. Donc c'est ça, à la fois les policiers sont dénoncés, mais sont aussi considérés comme étant nécessaires pour remédier à la situation. Mais comme je l'ai mentionné un peu tantôt, il ne faut pas oublier que la police et l'État travaillent ensemble. Et il y a une très bonne étude qui parle de ça, qui dit que, dans le fond, la police fait ce que l'État veut qu'elle fasse. Donc, ça reste que... C'est ça... La tolérance policière, c'est pas juste une question du corps policier qui décide de tolérer ces activités-là. C'est aussi une question du monde politique. Ils ont quelque chose à gagner aussi, que ce soit une élection ou des profits ou quoi que ce soit. Donc c'est ça. C'est contradictoire. Ça va... c'est à la fois quelque chose de négatif, mais à la fois quelque chose qui peut être bénéfique, la police.
Ouais, mais c'est vraiment, en fait... comme tu le dis, contradictoire, parce que si je comprends bien, les rapports vont dénoncer les policiers,
ouais,
mais vont quand même permettre l'application de mesures qui vont justifier une violence étatique plus prononcée.
Oui, dans le fond, mais c'est ça qu'ils veulent. Ce qu'ils critiquent, c'est que les policiers, ils tolèrent des activités. Donc, eux, ils veulent... les rapports et les groupes de citoyens qui se mobilisent pour mener à un nettoyage comme ça, ce qu'ils veulent, c'est que les policiers commencent à agir. Donc, ils disent que les policiers sont inefficaces et
c'est pas fou. Je suis surprise, les gens jugent le travail de la police. Non, mais je dis ça parce que, en fait, avec mon cher collègue Samuel Hensley, bonjour Sam, on a fait un travail justement sur l'évolution de la police à Québec. Puis depuis le début qu'il y a des agents de la paix, des constables ou whatever, il y a tout le temps des problèmes dans la société, puis ils vont être souvent remis sur le dos des policiers. Fait que c'est quand même... Mais je trouve ça intéressant comme de voir que c'était là dans les années 50 et actuellement, on le voit, c'est encore là, présent dans la société. Ça nous fait réfléchir, le podcast qu'on, slash balado qu'on fait aujourd'hui. C'est si philosophique.
En effet, très philosophique. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est normal que toutes les institutions gouvernementales, les organes gouvernementaux sont tous critiqués. Ils vont l'être à un moment ou un autre. Et avec raison, à un point, il faut critiquer les institutions, il faut critiquer ce qui ne fonctionne pas pour que ça puisse changer. Et là, ben, c'est ça qu'ils ont fait. La tolérance policière, la population s'est mobilisée contre ça parce que c'est quelque chose qui, pour eux, qui ne fonctionnait pas. Puis ils voulaient remédier à cette situation-là. Donc, ils ont fait une enquête. Donc, c'est pour la population, c'était ce qu'ils voulaient. C'était bénéfique pour eux de critiquer puis de mener une enquête. Et ça l'a abouti. Donc, c'est ça. Des fois, c'est nécessaire un peu de critiquer ce qui est en place pour pouvoir changer la situation. Puis ça reste la même chose avec le monde politique. Puis ça reste avec... Le même objectif que la commission Kefauver, qu'il faut réveiller la population pour qu'ils puissent voter pour d'autres dirigeants, c'est dans la même ligne de pensée.
C'est que j'ai l'impression que ça arrive comme un moment différent dans la pensée, justement, comme l'enquête Kefauver vient un peu avant, où est-ce qu'on veut réveiller la population et compagnie, puis leur faire voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis l'enquête Caron, inversement, elle arrive à un moment où on sait déjà qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis on a même des gens qu'on peut pointer du doigt et dire... C'est probablement de ta faute si ça fonctionne pas, tu sais.
Mais comme tu as mentionné aussi tantôt, l'enquête Caron est au niveau municipal, donc il faut considérer ça aussi que, par exemple, justement, la série d'articles de Pax Plante, Montréal sous le règne de la pègre, ça l'a un peu fait le rôle de la commission Kefauver. En fait, ça l'a réveillé un peu le public sur ce qui se passait. Bien évidemment, ça reste que c'est subjectif. C'est une personne qui décrit son expérience. Mais ça a quand même servi à réveiller, en quelque sorte, la population. Puis il ne faut pas oublier qu'à Montréal, il y a aussi eu deux autres enquêtes qui étaient très similaires
par
le passé.
Excuse-moi.
Il y a eu l'enquête Canon en 1909 et l'enquête Coderre, pardon, en 1924. Et c'est essentiellement le même objectif, c'est les mêmes questions. C'est une question de tolérance policière face aux vices commercialisés. Les deux commissions ont eu les mêmes conclusions que l'enquête Caron. Il y a de la tolérance policière, il y a de la corruption. Mais par contre, ces deux commissions-là pouvaient pas... Il n'y avait pas de jugement officiel. C'était un peu comme la commission Kefauver. C'était juste des recommandations qu'ils pouvaient faire. Et c'est ce que... Jean-Paul Brodeur, si je me rappelle bien, c'est un criminologue. Et lui, dans le fond, c'est ce qu'il dénonce. Il dit que c'est justement pour ça que ça ne fonctionnait pas, c'est parce qu'il n'y avait aucun pouvoir judiciaire, en quelque sorte.
Mm-hmm. Oui, bien souvent, on voit que justement, quand tu t'émets des recommandations, mais qu'il n'y a pas soit d'incitatif ou de répressif, en tout cas de répression associée, ben ça change rien là, au final.
C'est ça, tu le fais ou tu le fais pas, ça...
Ouais. Un peu comme la Société des Nations, mettons, après la Première Guerre mondiale, ben c'est le même genre de truc où, comme, on fait ça, on se dit qu'on va pas aller en guerre, mais il y a rien qui t'empêche d'aller en guerre, au final. Fait que Deuxième Guerre mondiale, voilà.
On sait
ce qui suit. On a quand même déjà abordé les grandes différences entre les deux rapports. On a aussi parlé finalement de la présence de la violence, la moralité dans chacun des rapports, donc dans l'enquête Caron et dans la commission Kefauver. Donc je pense qu'on a fait quand même une bonne partie du tour d'horizon sur ces deux rapports se déroulant dans les années 50.
Je pense aussi.
Oui, quand même. Mais généralement, quand on fait un travail... On a un nombre de mots limité, un nombre de pages limité, même chose pour un article scientifique. Donc, est-ce qu'il y a des trucs pour conclure là, que tu aurais aimé pouvoir intégrer dans ton travail, mais que faute de temps, faute d'espace, finalement, tu as dû mettre de côté.
Oui, bien, en fait, il y a quelques petites choses. Pour mon intérêt personnel, si j'avais eu beaucoup plus de temps, j'aurais creusé un peu plus dans la question de la religion. Parce que faut s'entendre qu'ici, ben, au Canada, au Québec, et aux États-Unis, c'était pas la même religion. Aux États-Unis, c'est majoritairement protestant, puis au Canada, c'est majoritairement catholique. Et c'est une vague de moralité, de nettoyage de l'immoral, qui a frappé toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est pas nécessairement une question de religion, mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais creusé un peu plus dans est-ce qu'il y a un impact, est-ce que la religion a un impact sur peut-être le type de moralité qu'on tente d'imposer ou sur la façon dont on traite de certaines activités. Mais ça, c'était surtout par manque de temps. Et il y a aussi, moi, c'est plus une question de source, en fait. Parce que moi, je me suis vraiment basée sur le rapport Keith Over et le jugement de l'enquête Caron pour les comparer. Et vu que c'était un projet de séminaire, il fallait que je me limite quand même en termes de recherche. Mais ces deux rapports-là abordent aucunement les communautés LGBTQ+, et les personnes issues d'une minorité visible. Mais on sait que ces deux communautés-là ont été touchées par les campagnes de moralité publique. Donc, si j'avais pu, j'aurais creusé un peu plus là aussi parce que...
Comme dans les périodiques, mettons?
Oui, dans les périodiques, mais parce qu'il y a un fonds d'archives assez développé sur l'enquête Caron, mais j'ai pas eu le temps de creuser à travers tout ça, mais c'est un sujet qui est très proche de ma maîtrise, donc peut-être que je vais avoir le temps de le faire pour ma maîtrise.
Puis, si jamais, je sais qu'au Québec, en tout cas, il y a le fonds d'archives gay et lesbienne, je pense, ou juste gay.
Ouais.
Donc, il pourrait y avoir des photos là-dedans aussi, de peut-être, ou des trucs qui montreraient plus le vécu des gens qui étaient, ben, qui devaient vivre avec, finalement, ce que l'enquête disait d'eux, sans...
Oui, parce que il y a un ouvrage qui s'appelle, je veux juste le chercher, Scandale, le Montréal illicite de 1940 à 1960. Et c'est, je veux juste voir, c'est Mathieu Lapointe, mais je me souviens plus, il y avait quelqu'un d'autre. Et ça a été une exposition aussi. Mais si je me trompe pas, parce que j'en ai lu plusieurs des livres sur ce sujet-là, mais si je me trompe pas, celui-là aborde quand même beaucoup la question justement de cette communauté-là et comment ils ont été touchés quand même fortement et différemment du reste de la population par les campagnes de moralité. En fait, Duplessis faisait une fierté de ne pas avoir de bar gay à Montréal comme aux États-Unis, c'est ce qu'il disait. Donc, on s'entend qu'ils ont quand même, joué un important rôle dans cette situation. Donc, c'est ça. Si j'avais plus de temps, j'irais creuser un petit peu plus loin.
Très cool. Ben, merci d'être venu, Fred.
Mais merci de m'avoir reçu. C'était vraiment très, très amusant.
Très amusant. Donc, je vais juste redire ton nom au long, là, si jamais. En tout cas, Frédéric Lefebvre, qui était venu au balado cette semaine. J'étais encore avec Maïté à la barre. Et Maïté et moi, on vous souhaite une très bonne soirée. Et avec Fred, on vous dit... avec Fred, on vous souhaite une bonne soirée.
Je vous souhaite une bonne soirée aussi.
Ouais, elle n'est pas méchante. Puis, moi et Maïté, on vous dit à la prochaine. Bye la gang! I put a spell on you. Cause you're mine.